San Francisco, hôpital Lennox, 16h. Ethel Kaufman n'arrivait pas à trouver le sommeil. Depuis le départ de Bonnie, après le déjeuner, elle se tournait et se retournait dans son lit. Quelque chose n'allait pas. Enfin, en dehors du cancer qui était en train de lui bouffer les poumons. C'était ce livre. Ou plutôt, c'était ce qu'elle avait écrit sur ses pages blanches. Elle se redressa sur son oreiller et attrapa le roman sur la table de chevet pour l'ouvrir à la page où elle avait calligraphié la recette du dessert de son enfance. D'où lui était venu ce regain de nostalgie? De l'imminence de la mort qui chaque jour gagnait du terrain? Probablement. La nostalgie, elle détestait ça. La route de la vie était si rapide qu'elle avait décidé de ne jamais regarder en arrière. Elle avait toujours vécu dans l'instant, en essayant de faire abstraction du passé. Elle ne conservait pas de souvenirs, ne fêtait aucun anniversaire, déménageait tous les 2 ou 3 ans pour ne s'attacher ni aux choses, ni aux gens. Pour elle, ça avait toujours été la condition de la survie. Pourtant, cet après-midi, le passé frappait à sa porte. Elle se leva avec difficulté et fit quelques pas jusqu'à l'armoire métallique où étaient rangées ses affaires. Elle sortit la petite valise en cuir rigide et à fermeture éclair que lui avait apporté Katia, sa nièce, lors de sa dernière visite. Des affaires que Katia avait trouvées en vidant la maison de ses parents avant de la mettre en vente. La première photo portait la date de mars 1929, quelques mois après sa naissance. Elle représentait un couple amoureux en train de poser fièrement avec ses 3 enfants. Ethel était dans les bras de sa mère, tandis que son frère et sa sœur, des jumeaux de 4 ans ses aînés, entouraient leur père. Beaux habits, sourires sincères, complicité, l'amour familial et la douceur transpiraient de ce cliché. Ethel mit la photo de côté sur son lit. Elle ne l'avait plus regardée depuis des décennies. Le document suivant était un article de presse jauni, illustré de plusieurs photos des années 1940. Les uniformes nazis, les barbelés, la barbarie. Le magazine renvoyait Ethel à sa propre histoire. Elle avait à peine 10 ans lorsqu'elle était arrivée aux États-Unis avec son frère. Ils avaient pu quitter Cracovie juste avant que les Allemands transforment une partie de la ville en ghetto. Sa sœur aurait dû les rejoindre plus tard, mais elle n'avait pas eu cette chance. Elle était morte du typhus à Paschov, ni ses parents qui n'avaient pas survécu au camp d'extermination de Belzec. Ethel poursuivit son retour vers le passé. Le document suivant était une carte postale en noir et blanc, représentant une élégante ballerine qui dansait sur les pointes. C'était elle, à New York. Elle y avait passé toute son adolescence dans la famille paternelle de sa mère qui avait su reconnaître et encourager ses dons pour la danse. Très vite, elle s'était distinguée et avait été engagée au New York City Ballet, la compagnie que venait de créer Georges Balanchine. Casse-noisette, le lac des cygnes, Roméo et Juliette. Elle avait dansé les rôles-titres des plus grands ballets. Puis, elle avait été contrainte de renoncer à la danse à 28 ans, suite à une fracture mal soignée qu'il avait laissé avec un boitement disgracieux. Un sentiment de gâchis lui donna la chair de poule. Derrière la carte postale, elle trouva le programme d'un spectacle new-yorkais. Après son accident, elle était devenue professeure à la School of American Ballet, tout en participant à la mise en scène de quelques comédies musicales à Broadway. Une autre photo était toujours douloureuse, même après des décennies. C'était celle d'un amant ténébreux. Un homme de 10 ans son cadet dont elle était tombée amoureuse à 35 ans. Une histoire passionnelle qui, pour quelques heures d'euphorie, lui avait coûté des années de souffrance et de désillusion. Et puis le cauchemar. Un cauchemar qui commence dans la lumière du cliché suivant. Un peu flou, qu'elle avait pris elle-même en se regardant dans un miroir. La photo de son ventre rond. Alors qu'elle ne s'y attendait plus, Ethel était tombée enceinte à la veille de ses 40 ans. Une offrande de la vie qu'elle avait prise avec une gratitude infinie. Elle n'avait jamais été plus heureuse que les 6 premiers mois de sa grossesse. Bien sûr, elle avait des nausées et était écrasée de fatigue, mais le bambino qui poussait dans son ventre l'avait transformée. Un matin pourtant, 3 mois avant le terme, elle avait perdu les os sans raison apparente. On l'avait conduite à l'hôpital où elle avait passé les examens appropriés. Elle se souvenait de tout avec une acuité très vive. Le bébé était toujours là dans son ventre. Elle sentait ses coups de pied. Elle entendait battre son cœur. Puis le gynécologue de service, ce soir-là, lui avait dit que la poche des os s'était fissurée et que sans liquide amniotique, le bébé ne pouvait pas vivre. Le sac membraneux étant sec, on devait provoquer l'accouchement. Alors, il y avait eu cette nuit d'horreur où elle avait mis au monde son bébé, tout en sachant qu'il ne survivrait pas. Au bout de plusieurs heures de travail, elle n'avait pas donné la vie, mais la mort. Elle avait pu le voir, le toucher, l'embrasser. Il était si petit, mais en même temps si beau. Au moment de l'accouchement, elle n'avait pas encore décidé d'un prénom pour son fils. Dans sa tête, elle disait toujours « Le bambino, mon bambino ». Le bambino avait vécu une minute avant que son cœur ne s'arrête. Ethel n'oublierait jamais ces 60 secondes pendant lesquelles elle avait été mère. 60 secondes surréalistes. Après ça, elle n'avait plus vécu. Elle avait juste fait semblant. Toute sa lumière, toute sa joie, toute sa foi avait été consumée pendant cette minute. Tout ce qu'il restait de flamme en elle s'était éteint en même temps que son bambino. Les larmes qui coulaient de ses joues tombaient sur une petite enveloppe épaisse en papier nacré. Elle l'ouvrit en tremblant et sortit la mèche de cheveux du bambino. Elle pleura longtemps, mais cela la libéra d'un poids qu'elle gardait en elle depuis des années. À présent, elle se sentait très fatiguée. Avant de se recoucher, sur une inspiration subite, elle colla les photos, l'article de journal, la carte postale et la mèche de cheveux dans les pages vierges du livre. Un résumé des moments forts de sa vie qui tenait en une dizaine de pages. S'il avait fallu recommencer, aurait-elle changé quelque chose à sa vie? Elle chassa cette interrogation de sa tête. Cette question n'avait aucun sens. La vie n'était pas un jeu vidéo avec un nombre de choix multiples. Le temps passe et on passe avec lui, faisant le plus souvent ce qu'on peut plutôt que ce que l'on veut. Le destin fait le reste et la chance vient mettre son grain de sel dans tout ça. C'est tout. Elle rangea le livre dans une grande enveloppe Kraft et appela l'infirmière de garde pour lui demander de remettre ce paquet à Bonnie Delamico la prochaine fois qu'elle viendrait à l'hôpital. Internat pour filles, campus de Berkeley, 19h. « Ne mange pas trop de tiramisu à Rome », conseilla perfidement Yu-Chan. « Il y a au moins 1 milliard de calories là-dedans, et tu es un peu grossi ces derniers temps, non ?»« Ne t'en fais pas pour moi », répliqua Bonnie en bouclant sa valise. « Ça ne semble pas déplaire aux garçons, d'après ce que j'ai cru comprendre. » La jeune fille regarda par la fenêtre. Il faisait déjà nuit, mais elle aperçut les appels de phare du taxi qu'elle avait commandé. « J'y vais !»« Bon courage !»« Dérouille-leur la gueule à ces péquenots !» l'encouragea la chinoise. Bonnie descendit les escaliers de l'internat et donna ses bagages au chauffeur du Yellow Cab qui les chargea dans sa voiture. « Vous allez à l'aéroport, mademoiselle ?»« Oui, mais d'abord j'aimerais faire un tour rapide par l'hôpital Lennox. » Pendant le trajet, Bonnie se perdit dans ses pensées. Pourquoi éprouvait-elle le besoin de retourner voir Madame Kaufman? En la quittant, à midi, elle l'avait trouvée fatiguée et un peu triste. Surtout, la vieille dame lui avait dit au revoir de façon trop solennelle, en insistant pour l'embrasser, ce qui ne lui ressemblait pas vraiment. Comme si on se voyait pour la dernière fois. Le taxi s'arrêta en double fil. « Je vous laisse mon sac, d'accord? J'en ai pour 5 minutes. »
« Prenez votre temps, je vais me garer au parking. »
Internat pour filles, campus de Berkeley, 19h30.
« Police, ouvrez !»
Yu-Chan sursauta. Elle avait profité de l'absence de sa colocataire pour fouiller dans son ordinateur et essayer de lire ses mails. Pendant quelques secondes, elle paniqua, s'imaginant qu'une caméra de surveillance camouflée dans la chambre venait de la trahir. Elle éteignit le moniteur en toute hâte avant d'ouvrir la porte. « Je suis l'officier Carole Alvarez », se présenta Carole, tout en sachant très bien qu'elle n'avait aucune autorisation pour intervenir dans un campus universitaire.
« Nous voudrions parler à Bonnie Delamico », prévint Milo.
« Vous l'avez raté de peu », répondit Yu-Chan avec soulagement. « Elle vient de partir pour l'aéroport. Elle participe à un tournoi d'échecs à Rome. »
« À Rome. Et merde !»« Vous avez son numéro de portable ?» demanda-t-il en sortant son cellulaire.
Parking de l'hôpital Lennox, 19h34. Sur la banquette arrière du taxi, la sonnerie du téléphone de Bonnie retentit au fond de sa sacoche en patchwork. Le carillon se fit insistant, mais le chauffeur ne l'entendit même pas. En attendant sa passagère,
il avait poussé le volume de sa radio pour suivre le match des Mets contre les Braves. À l'intérieur du bâtiment, Bonnie sortit de l'ascenseur et s'avança à pas de loup dans le couloir.
« L'heure des visites est passée, mademoiselle, »
l'arrêta une infirmière.
« Je voulais saluer Madame Kaufman avant de partir à l'étranger. Vous êtes la petite bénévole, c'est ça ?»
Bonnie approuva de la tête.
Ethel Kaufman s'est endormie, mais elle a laissé une enveloppe pour vous.
Un peu déçue, Bonnie suivit la femme en blanc jusqu'à la loge pour recevoir le paquet qui contenait le livre. De retour dans le taxi, en route vers l'aéroport, elle découvrit avec stupéfaction les photos et les annotations ajoutées par la vieille dame. Sous le coup de l'émotion, elle ne pensa pas une seule seconde à vérifier son téléphone. Aéroport international de San Francisco, piste de décollage numéro 3, vol 0966, 21h27.
Bonjour mesdames et messieurs, ici votre chef de cabine. Je suis heureux de vous accueillir à bord de ce Boeing 767 à destination de Rome. Notre temps de vol est aujourd'hui estimé à 13h55. L'embarquement est à présent terminé. En face de votre siège, vous trouverez une notice de sécurité avec les procédures d'urgence que nous vous demandons de lire attentivement. L'équipage de cabine va maintenant procéder aux démonstrations de...
Aéroport international de San Francisco, hall des départs, 21h28.
Le vol pour Rome ? Ah, je suis désolé. Nous venons juste de terminer son embarquement, annonça l'hôtesse d'accueil en consultant son écran. C'est pas vrai, enragea Carole. On ne mettra jamais la main sur ce satané bouquin. Essaye de rappeler cette fille. Je lui ai déjà laissé deux messages, annonça Milo. Elle a dû mettre son téléphone sur vibreur. Essaye encore, s'il te plaît.
Piste de décollage numéro 3, vol 0966, 21h29.
Notre décollage est désormais imminent. Veuillez attacher votre ceinture, relever votre siège et éteindre votre portable. Nous vous rappelons par ailleurs que ce vol est non-fumeur et qu'il est strictement interdit de fumer dans les toilettes.
Bonnie boucla sa ceinture et fouilla dans son sac pour sortir son oreiller de voyage, son masque de sommeil et son livre. En éteignant son téléphone, elle s'aperçut que le voyant rouge clignotait, signalant la présence de messages ou de SMS. Elle fut tentée de les consulter, mais le regard réprobateur de l'hôtesse l'en dissuada. Paris, minuit. Le salon de notre petit appartement était éclairé de la lumière tamisée que propageait une dizaine de bougies. Après une soirée tranquille, Billy s'était endormi sur le canapé. Moi, j'avais allumé mon ordinateur avec angoisse et lancé mon vieux traitement de texte. La terrible page blanche apparut sur l'écran et avec elle, les nausées, l'angoisse et la panique qui m'étaient malheureusement devenues familières. Force-toi. Force-toi. Non. Je me levai de ma chaise, allai jusqu'au canapé et pris Billy dans mes bras pour la porter jusqu'à la chambre. Dans un sommeil troublé, elle marmonna qu'elle était trop lourde, mais elle se laissa faire. La nuit était fraîche, et le radiateur de la pièce ne dégageait qu'une faible chaleur. Dans l'armoire, je trouvai un duvet supplémentaire et je l'abordai comme une enfant. J'allais refermer la porte lorsque je l'entendis me dire « Merci ». J'avais tiré les rideaux pour protéger son sommeil de l'éclairage de la rue et nous étions dans le noir. « Merci de t'occuper de moi. Personne ne l'avait jamais fait avant toi. » Personne ne l'avait jamais fait avant toi. La phrase résonnait encore dans ma tête lorsque je regagnais ma table de travail. Sur l'écran, je regardais le curseur qui me narguait en clignotant. D'où vient votre inspiration? C'était la question classique, celle qui revenait le plus souvent dans la bouche des lecteurs et des journalistes, et, honnêtement, je n'avais jamais été capable de répondre sérieusement à cette question. L'écriture impliquait une vie ascétique. Noircir 4 pages par jour me prenait une quinzaine d'heures. Il n'y avait pas de magie, pas de secret, pas de recette. Il fallait juste me couper du monde, m'asseoir à un bureau, mettre mes écouteurs, y déverser de la musique classique ou du jazz et prévoir un stock important de capsules de café. Parfois, dans les bons jours, un cercle vertueux se mettait en place qui pouvait me faire écrire d'un jet une bonne dizaine de pages. Dans ces périodes bénies, j'arrivais à me persuader que les histoires préexistaient quelque part dans le ciel et que la voix d'un ange venait me dicter ce que je devais écrire. Mais ces moments étaient rares, et la simple perspective de rédiger 500 pages en quelques semaines
me paraissait tout bonnement impossible. Merci de t'occuper de moi. Mes nausées avaient disparu. Mon angoisse s'était changée en trac. Le trac de l'acteur juste avant que le rideau se lève. Je posai mes doigts sur le clavier et ils se mirent en mouvement presque malgré moi. Les premières lignes arrivèrent comme par magie. Chapitre 1. De mémoire de Bostonien, on n'avait jamais vu un hiver aussi froid. Depuis plus d'un mois, la ville ployait sous la neige et le givre. Dans les cafés, les conversations tournaient de plus en plus souvent autour de ce prétendu réchauffement climatique dont les médias nous rebattaient les oreilles. Tu parles. Une belle fumisterie, tout ça. Dans son petit appartement de Southsea, Billy Donnelly dormait d'un sommeil fragile. Jusqu'à présent, la vie n'avait guère été clémente avec elle. Elle ne le savait pas encore, mais cela allait changer. Ça y est, c'était parti. Je compris tout de suite que les sentiments que j'éprouvais pour Billy m'avaient libéré de ma malédiction. En me faisant reprendre pied dans la réalité, elle avait réussi à retrouver la clé du cadenas qui verrouillait mon esprit. La page blanche ne me faisait plus peur. Je me mis à taper et travailler toute la nuit. Rome, aéroport Fiumicino, le jour suivant.
Mesdames et messieurs, ici votre chef de cabine. Nous venons d'atterrir à l'aéroport Fiumicino de Rome, où la température extérieure est de 16 degrés. Veuillez nous excuser pour ce léger retard. Veuillez rester assis durant le roulage et garder votre ceinture attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Veuillez prendre garde aux chutes d'objets en ouvrant les compartiments à bagages et vérifier que vous n'oubliez rien. Au nom de toute l'équipe de United Airlines, nous vous souhaitons une agréable journée et espérons vous revoir prochainement sur nos lignes.
Bonnie Delamico eut toutes les peines du monde à secouer sa somnolence. Elle avait dormi pendant tout le vol d'un sommeil heurté et peuplé de cauchemars dont elle n'arrivait pas à émerger. Elle quitta l'avion encore tout engourdi, sans s'apercevoir qu'elle oubliait dans le filet de son siège le livre que lui avait transmis Ethel Kaufman.